Le champagne fait partie de tous nos moments festifs et de réjouissance. Mais connaissons-nous vraiment ses origines, ses grandes évolutions et comment se présente le millésime 2023 ?
Donc, je suis Yves Tesson, je suis le rédacteur en chef adjoint de la revue Terre de Vin, qui est un magazine mensuel dont le siège est à Bordeaux, aussi un site internet terredevin.com. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de la couverture de la Champagne.
Quand la production du champagne a-t-elle commencé ?
C'est un grand vignoble avant l'émergence de la bulle, hein, puisque c'est un vignoble qui, comme tous les grands vignobles français, a été créé plus ou moins par les Romains. Et après, il y a eu une grande réputation des vins qu'on appelait les vins clairets, qui étaient des vins un petit peu rouges, mais pas complètement rouges, pas aussi colorés que ceux des vins de Bourgogne. Et d'ailleurs, il y avait une grande bataille au XVIIe siècle entre les vins de Bourgogne et les vins de Champagne, voilà, pour savoir notamment lesquels devaient être prescrits à Sa Majesté pour la soigner. Sa Majesté préférait les vins de Champagne, donc toujours tranquille à l'époque, aux vins de Bourgogne, mais les médecins ont fini par lui prescrire les vins de Bourgogne. Et donc la bulle, elle est arrivée un petit peu par hasard. Elle est arrivée parce qu'on a un vignoble qui est extrêmement septentrional. Pendant longtemps, on a été le vignoble le plus septentrional. Et donc, si bien qu'il n'était pas rare à l'époque de vendanger fin octobre et de voir la fermentation coupée par le froid. Hein, donc le vin, à l'époque, les fermentations avaient lieu dans les vendangeoires. Et voilà, au début novembre, il pouvait y avoir un coup de froid qui interrompait les fermentations. Et au printemps, quand le climat se réchauffait, eh bien le vin reprenait sa fermentation dans les barriques et avait ce caractère pétillant, mais qui ne restait pas, parce que les barriques ne sont pas des contenants complètement hermétiques. Donc les bondes sautaient, voilà, et on sait que déjà au Moyen-Âge, Henri d'Andelys, qui est un poète médiéval, parlait de messire pétard de Chalon, donc il y avait ce petit côté-là, mais c'était plus considéré comme un défaut que comme une qualité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au XVIIe siècle, en Angleterre, il y a eu une révolution autour de la bouteille, c'est-à-dire que le roi d'Angleterre a interdit l'usage des bois pour son industrie, et donc les industriels se sont mis à utiliser du charbon, avec lequel ils ont obtenu un verre beaucoup plus résistant. Et les marchands londoniens, pour mieux conserver les vins, ont pris l'habitude de les tirer en bouteille, et parmi ces vins qu'ils importaient, il y avait des vins de champagne qui probablement n'avaient justement pas fini leur fermentation, et la fermentation a repris dans les bouteilles comme reprenait autrefois dans les barriques, et sauf que comme c'est un contenant hermétique, eh bien l'effervescence est restée. Il y avait en plus à cette époque-là toute une aristocratie anglaise qui était un peu marginalisée par les révolutions, qui cherchait des nouveaux moyens de se démarquer, de choquer quelque part, et finalement boire du vin de champagne effervescent, c'était une manière à l'époque de choquer, de se démarquer. D'ailleurs, les champenois au début trouvaient que c'était gâcher leur bon vin, mais comme ils avaient un grand sens commercial, ils ont très vite compris qu'il fallait produire le vin non pas comme on l'aimait, mais comme le consommateur l'aime, et donc à partir de là, ils ont pousser la maîtrise de cette bulle, parce que s'ils ne sont pas forcément à l'initiative de cette bulle, la maîtrise scientifique, en revanche, de la seconde fermentation, ça, par contre, elle leur appartient pleinement. Donc voilà pour l'histoire du champagne avec ses bulles.
Quels sont les principaux cépages de ce vignoble et sur quel département et surface s'étend-il ?
Alors, on a trois cépages qui sont à peu près à égalité, qui sont le pinot noir, le chardonnay et le meunier. Le pinot noir et le meunier sont des cépages noirs. Et donc ça a été une grande innovation champenoise aussi au XVIIe siècle, cette capacité à produire du vin blanc à partir de raisins noirs grâce à un pressurage délicat. Et puis le chardonnay, donc, qui est un cépage blanc, qu'on retrouve beaucoup sur la Côte des Blancs. C'est un vignoble qui se répartit principalement sur l'Aisne, enfin sur la Marne d'abord, hein, qui est le cœur du vignoble, donc la Marne, avec la montagne de Reims, et puis la vallée de la Marne, et puis la Côte des Blancs, et puis on a l'Aisne, prolongement de la vallée de la Marne, et puis on a plus au sud de la Marne, on a l'Aube, avec la Côte des Barres, voilà, qui est aussi une région importante. Donc voilà, et j'oubliais aussi, pour les Chardonnays, on a aussi du côté de Vitry-le-François, toute la partie du Vitria, qui est une zone qui a été replantée à partir de 1968, qui est intéressante au niveau des Chardonnays aussi, voilà. Il faut qu'il y ait un tout petit bout en Haute-Marne. Et donc, on a 34 000 hectares de vignes. Voilà. Ce qui représente à peu près en production plus de 300 millions de bouteilles vendues chaque année, avec des ventes qui ont été assez records ces deux dernières années, parce qu'après le Covid, en fait, il y a eu un gros boom des ventes de champagne, même si là, depuis quelques mois, on observe un petit ralentissement.
Y a-t-il eu des grandes évolutions dans les techniques de production au cours du temps ?
Oui, il y a beaucoup d'évolutions techniques. Je dirais qu'au 19e siècle, la grosse évolution qu'il y a eu, ça a été la capacité à connaître de manière exacte la quantité de sucre qu'il fallait rajouter au tirage pour avoir une seconde fermentation optimale et limiter la casse. Et donc pour ça, il fallait être capable de connaître la quantité de sucre résiduel. Donc ça, c'était au 19e siècle, aux années 1830, un pharmacien qui s'appelait Jean-Baptiste François qui a mis ça au point en utilisant le glucoénomètre. Après, il y a eu tout le travail sur les levures, plus sur la fin du 19e siècle avec les sélections de levures, et puis des travaux aussi qui se sont aperçus que finalement toutes les levures n'avaient pas le même appétit, et notamment selon la composition des moûts des vins, voilà, quantité d'azote, etc. Donc tout ça, ça a été finement analysé, je dirais, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis, il y a eu d'autres grandes évolutions, notamment ce qui a été inox et maîtrise des températures et vinification, mais ce n'est pas spécifique au champagne. Et donc, tout ce qui a été contrôle des fermentations malolactiques, ça a été un élément assez central. Et c'est une science qui ne cesse de progresser, de s'affiner, de gagner en précision. Après, côté viticulture, on a eu, comme tous les grands vignobles, le phylloxéra qui a été une rupture majeure. Hein, on est passé de la vigne en foule à la vigne en rang. Il a fallu revoir les modes de taille. Voilà, donc ça a été aussi un gros travail de sélection, trouver les bons porte-greffes qui résisteraient au sol champenois, des sols très calcaires, donc très, très sensibles à la chlorose. On est sur des sols vraiment crayeux, hein, c'est ça la grande caractéristique de la Champagne. Donc voilà, tout un travail de recherche, puis en même temps ne pas perdre les qualités organoleptiques des vins de Champagne. Aujourd'hui aussi, mais comme dans les autres vignobles, des tas de questions qui se posent sur comment évidemment limiter tout ce qui est intrant, hein, tout ce qui est pesticides, herbicides, voilà. Donc il y a beaucoup de recherches sur les variétés résistantes par rapport au milieu, parce que on est dans un vignoble qui est très au nord, donc très humide, très sensible au milieu, et un des grands obstacles, c'est principalement le milieu.
Quels sont les premiers retours des vendanges 2023 en Champagne ?
Des très très beaux chardonnays, des vendanges avec des volumes très importants, des poids de grappes jamais vus. Après, sur les noix, on est un petit peu plus mitigé en général dans ce que j'entends, même s'il y a des choses qui seront certainement intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'examiner ce que disent les gens sur les vignerons, sur le mode de conduite. Il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas avoir fait des vendanges en verre. Il y en a aussi qui soulignent en fait tout l'intérêt qu'il y avait à avoir justement de l'enherbement cette année, parce que ça crée une concurrence pour l'azote. Et donc, ça faisait des maturations, ça permettait, la vigne étant concurrencée, d'avoir des maturations un petit peu plus lentes, plus régulières surtout en fait, et d'avoir aussi moins d'alimentation en azote, et donc moins de pourriture. Donc c'est assez inégal, ça dépend des modes de conduite et des choix un peu que chacun a fait au niveau des noirs. Donc il y aura des choses intéressantes, c'est sûr, et il y aura peut-être des choses qui le seront un petit peu moins. À voir, on n'a pas encore dégusté les vins clairs. C'est prometteur, voilà. C'est une vendange en tout cas très intéressante et très différente comme chaque année, très très différente de 2022 où on avait une homogénéité du point de vue sanitaire qui était absolument extraordinaire. Voilà, donc rien à voir, très différent.